Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Aujourd'hui, mon invité est Émilie Fraîche.
Moi, j'aime la littérature. J'aime les écrivains qui écrivent avec leurs tripes. Voilà. J'aime ce qui vient du ventre. J'aime sentir dans un livre que l'auteur n'aurait pas pu ne pas écrire ce livre. Et que c'était une question vitale pour lui.
Émilie est une romancière autant passionnée par la fiction que par l'actualité. On lui doit notamment le livre 24 jours, La vérité sur la mort d'Ilan Halimi, qui a été porté à l'écran par Alexandre Arcadi, mais aussi le scénario du film Le ciel attendra, qui dressait le portrait d'une jeune candidate au djihad. Publié chez Stock, son 14e roman s'intitule Vivre ensemble et raconte l'histoire d'un couple de cadras qui décide d'emménager après les attentats du 13 novembre 2015. Elle est scénariste, il est avocat. Chacun a un fils d'une précédente histoire. Et bien vite, la cohabitation va se révéler périlleuse, sinon impossible. À la fois intimiste et politique, Vivre ensemble est un roman dont la lecture ne laisse pas indemne. Et forcément, j'avais envie d'en discuter avec son auteur. Émilie Fraîche, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes aujourd'hui l'invitée de ce podcast qui s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Moi, tout de suite, je voudrais vous demander si vous êtes d'accord.
Oui, j'adhère complètement à cette phrase parce que j'ai le sentiment, en tout cas pour moi, que la lecture, c'est la liberté. Et que dans nos quotidiens aujourd'hui, beaucoup de choses entravent cette liberté, beaucoup de contraintes, et que s'octroyer du temps pour lire, c'est s'octroyer du temps pour être libre. Libre de rêver, libre de s'échapper, libre d'être seul, libre d'être retiré aussi, d'être protégé du bruit du monde.
Ça ne veut pas dire forcément que les livres rendent heureux. Vivre ensemble, votre nouveau livre, est-ce que c'est un livre qui fait du bien potentiellement à ses lecteurs? Alors moi j'ai un avis très personnel, mais vous en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent en refermant la dernière page?
Écoutez, je pense que c'est un livre qui peut déranger, qui peut mettre mal à l'aise, qui peut interroger aussi. Moi j'avais envie, ce livre il est né au lendemain des attentats de 2015, à un moment où face à cette violence terroriste sans précédent sur le territoire français, la seule réponse politique qu'on y a apportée, c'est ce mot substantivé, le vivre ensemble. J'en pouvais plus, très franchement, de l'entendre tout le temps. J'avais l'impression que c'était une vraie escroquerie linguistique, qu'il ne recouvrait aucune réalité, qu'il ne pouvait pas être un projet, puisqu'il était un point de départ. Nous vivons ensemble. Et donc vraiment, le projet littéraire de ce texte, c'est d'essayer de redonner un peu de sens à une expression galvaudée complètement sur le terrain du politique. Et donc, j'ai exploré ces deux mots, comme vous l'avez noté sur la couverture, en enlevant l'article devant et le tirer surtout, donc en leur rendant leur pureté de deux mots, vivre ensemble. J'ai essayé d'aller l'explorer sur le terrain de l'intime, avec ce couple, Pierre et Déborah, qui se baladent dans Paris le 13 novembre. Ils sont rue de la Fontaine au Roi, ils échappent de justesse aux attentats des terrasses. Ils ne sont pas des victimes, mais ils sont, comme la majorité des Français, des miraculés. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être à la place des victimes, et le hasard pur a fait qu'ils ont été préservés de ce cauchemar. Et dans une sorte d'état d'urgence, non pas juridique comme le pays l'a été, mais émotionnel, ils décident de vivre ensemble. Sauf que ce n'est pas pour eux une simple déclaration d'intention, ce n'est pas juste des mots, c'est une réalité concrète. Puisqu'ils décident de prendre un appartement rue de Belzins et de s'y installer avec leurs deux fils respectifs. Salomon, le fils de Pierre, 10 ans, et Léo, le fils de Déborah, 12 ans. Et évidemment, la situation se complique à ce moment-là, parce que vivre ensemble, partager son territoire intime avec des gens qui nous sont imposés, avec des gens qu'on n'a pas choisis, avec des étrangers, eh bien c'est compliqué. Et donc, dans ce livre, je revisite très simplement le mythe d'Abel et Caïn, On oublie toujours que dans le récit qui fonde notre civilisation occidentale, la première relation de fraternité qui nous est racontée est un fratricide. Et donc, on a souvent tendance à montrer du doigt, à désigner la violence comme quelque chose d'extérieur à nous. La violence, elle est intrinsèque à l'être humain. Elle est en nous, et tout le travail du vivre ensemble, à mon avis, justement, c'est d'empêcher le passage à l'acte. Alors, pour revenir à votre question de départ, est-ce que ce livre est une lecture agréable ? Je pense que c'est une lecture tendue, parce que j'ai essayé de rendre compte de cette tension dramatique dans la narration même du récit, pour qu'on s'interroge sur le passage à l'acte. La vraie question, finalement, avec la violence, c'est est-ce qu'on passe à l'acte ou non ? Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce passage à l'acte et tous ces questionnements, vous les posez par rapport à l'actualité, par rapport à l'intime, même aussi par rapport à la fiction. C'est-à-dire que par rapport à l'actualité, vous parlez des attentats, mais on parle aussi de Calais, la situation des migrants là-bas. L'intime, c'est votre relation de couple et
pas la mienne, celle de Déborah.
La relation de couple de Déborah. Ah, c'est intéressant, on va y venir. La relation de couple de Déborah et de Pierre et les deux garçons ensemble, Salomon et Léo, qui ne peuvent pas vraiment s'encadrer, hein, on peut le dire, dès le départ. Et puis aussi dans la fiction, vous faites référence à un film argentin, Les Nouveaux Sauvages, où les gens ont tous envie de meurtre.
Oui, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le passage à l'acte. Je fais référence à ce film que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il est très drôle, qui est un film à sketch, donc Les Nouveaux Sauvages, et qui raconte des situations de pétage de plomb, du type qui va à la fourrière et qui n'arrive pas à récupérer sa voiture, à celui qui est doublé sur l'autoroute, à la femme trompée qui l'apprend le soir de son mariage. Et en fait, on se rend compte que finalement, je le dis dans le livre, le premier fantasme, ce n'est pas d'être riche, ce n'est pas de vivre la plus grande histoire d'amour avec une femme magnifique ou un homme sublime. Non, en fait, on se rend compte, au regard du succès de ce film, que le premier fantasme des gens, c'est de tuer celui qui nous rend la vie impossible.
C'est presque plus tentant que d'aimer les autres, par moment. Enfin, on a plus souvent envie de tuer quelqu'un. Moi, une fois, j'ai discuté avec Woody Allen. On lui demandait, Woody Allen qui aime bien mettre en scène des crimes parfaits dans ses films, et on lui demandait avec d'autres journalistes, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie de tuer quelqu'un ? Et il répondait, si je tuais quelqu'un à chaque fois que j'en ai envie, il y aurait personne dans cette pièce.
Mais oui, c'est très drôle. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'humour que j'aime. Et c'est vrai que y a cette notion... Y a une conversation comme ça dans le livre avec Pierre et Déborah où ils se remémorent avoir vu ensemble. C'est le premier film qu'ils ont vu ensemble au cinéma, Les Nouveaux Sauvages. Et elle lui dit d'ailleurs... il lui dit, mais est-ce que t'as déjà eu envie de tuer quelqu'un ? Mais bien sûr. Alors il lui dit, aujourd'hui, j'aurais envie de tuer le ministre de l'Intérieur, parce que justement, il est dans une situation impossible à Calais. En tant que bénévole, il intervient sur le site de la jungle pour aider les migrants à présenter leur demande d'asile devant l'OFPRA. Et donc, c'est tellement ubuesque que oui, il a envie de tuer les autorités. Et de manière assez drôle, il lui dit, et toi, t'as envie de tuer qui ? Et elle lâche le truc, elle dit, ton ex-femme. Ce qui montre bien l'état de crispation dans une famille recomposée avec les ex-maris, les ex-femmes, etc. Mais ça, c'est vraiment, pour le coup, je pense, ce qui permet peut-être de sourire un peu dans une ambiance plus générale qui est extrêmement tendue et violente, parce que comme vous y faisiez référence tout à l'heure, le couple que je mets en scène dans ce livre, je le mets en scène au lendemain des attentats, dans une France qui va mal, dans une France qui est meurtrie, qui est en proie aussi à une crise migratoire sans précédent, qui réorganise sur son territoire des territoires de violence, sur cette jungle. Je ne raconte pas tant la difficulté de vivre entre les Français et les migrants qu'entre les migrants eux-mêmes, puisque dans le livre, je raconte le meurtre au couteau d'un jeune Éthiopien par un Érythréen, qui est le résultat de l'impossibilité même à vivre ensemble sur ce territoire qui n'est plus de l'ordre de la civilisation. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la jungle, où c'est la loi du plus fort, en fait.
Alors, il y a une référence littéraire importante dans le livre. Je pense que c'est un peu une clé pour le projet en lui-même et sans doute dans vos influences. C'est Vipère au poing de Bazin, où la maman du petit garçon de Pierre lui dit tu trouves que je suis une mauvaise mère, ben lis ce livre. Comme un peu comme un. Alors, je ne sais pas si elle lui donne comme un cadeau empoisonné ou plutôt comme une manière d'apaiser ses souffrances ou sa rébellion. Pourquoi vous avez choisi ce livre en particulier ?
J'ai choisi ce livre parce que, enfant, il m'avait énormément marqué et parce que c'est un scandale, ce livre, parce que c'est la première fois qu'on présente, ou en tout cas une des premières fois qu'on présente une mère sous un mauvais jour. Et à l'époque où Bazin écrit ce livre, ça n'existe pas. Les mères sont parfaites, les mères sont enfantes, les mères apportent de l'amour, de la douceur, etc. Et sans évidemment avoir la prétention de me comparer à Hervé Bazin, loin de là, mais en tout cas, ce qui me plaisait dans ce projet-là, au-delà de traiter la question de vivre ensemble, c'était aussi de me dire, la littérature, c'est le dernier endroit où on est libre, on a commencé notre discussion là-dessus. J'ai envie de traiter d'un sujet tabou, d'un sujet dont on ne parle nulle part ailleurs, c'est l'enfant désagréable, l'enfant qui agresse, l'enfant qui pose problème. L'enfant est une valeur absolument taboue dans notre société, il est intouchable, et d'ailleurs je pense que les réactions aussi violentes au livre, au-delà du fait que... quelqu'un, enfin voilà, se soit reconnu et m'accuse d'atteinte à la vie privée et à la vie privée de son enfant, c'est que il y a le portrait dans ce livre d'un enfant qui suscite de la part de la narratrice de l'agacement, de l'énervement, du désamour, du dégoût, de la stupeur, etc. Il y a 1,5 million d'enfants aujourd'hui qui vivent dans des familles recomposées en France, donc c'est le double de couples qui se retrouvent à vivre avec l'enfant de l'autre, un enfant qu'ils n'ont pas choisi. Et c'est extrêmement compliqué. J'ai des
témoignages. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Hein.
Il n'y a pas de mode d'emploi. Et puis, vous n'êtes pas prêt, dans l'existence, à être agressé par un enfant. Vous êtes dans la stupéfaction. Or, un enfant peut vous être désagréable. Un enfant peut vous pourrir l'existence. Un enfant peut susciter chez vous des sentiments absolument abominable, dont vous vous sentez ensuite coupable. Et le personnage de Déborah traverse tous ces états d'âme. Il y a des moments où elle essaye d'aider Salomon, elle essaye de lui faire plaisir, il y a d'autres moments où elle est absolument sidérée par sa violence. C'est un enfant qui est largement instrumentalisé par sa mère, et je crois qu'en cela, il est un archétype de beaucoup d'enfants qui sont le réceptacle de la haine, de la violence, de la colère de leurs parents. Sauf que dans la vie, mille fois, vous entendez des gens vous dire « je peux pas supporter son gosse, je peux pas le supporter, il me pourrit la vie, dès qu'il arrive une semaine sur deux, c'est l'enfer à la maison », ou alors « on s'est séparé à cause de ses enfants, parce qu'il me menait la vie dure », etc. Mais ce ne sont pas des choses qui sont politiquement correctes, ce ne sont pas des choses que les gens se permettent de dire publiquement. Et c'est justement pour cette raison-là que ça m'intéressait de le traiter dans un livre. Parce que la littérature, il me semble que c'est aussi la possibilité, et je dirais même le devoir, de remuer le couteau dans la plaie. Sans faire de jeu de mots, puisque le couteau est une symbolique qui traverse tout mon livre. Et pour revenir à Hervé Bazin, la référence, comme vous le dites, n'est pas du tout anodine. Mais de la même manière que lui, pour la première fois, est-ce que c'était choquant, dresser le portrait d'une mère détestable, je dresse le portrait d'un enfant qui est un peu détestable.
Est-ce que la solution pour s'occuper d'un enfant insupportable, c'est de lui mettre un livre entre les mains ? Est-ce que ça peut l'être ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une manière de rejeter le problème en lui disant « vas-y, occupe-toi, divertis-toi ».
Alors, si vous parlez de la mère M2S de Salomon qui lui donne Vipère au poing à lire, c'est extrêmement violent.
C'est pas une lecture pour un enfant.
Non, c'est une lecture pour se dédouaner, elle, par rapport à cette accusation de son propre enfant qui lui dit qu'elle est méchante. Elle lui dit, mais il y a bien pire, tiens. Et puis elle lui donne un livre référence sur des mères abominables, ce qui est extrêmement dur. Mais de manière générale, oui, je pense que la littérature est un bon vecteur de dialogue avec les autres, vraiment de manière générale.
Alors, Salomon, c'est peut-être pas le bon livre à lui faire lire, mais s'il fallait lui donner un livre qui l'élève ou qui apaise ses douleurs, ça serait quoi?
Ah, c'est intéressant ça comme question.
Merci.
Non, mais c'est très dur de vous répondre parce que j'y ai pas réfléchi. Donc c'est très, je peux pas vous répondre comme ça, franchement.
On ne pourrait pas lui donner Harry Potter parce qu'il s'ennuierait, parce qu'il est un enfant précoce.
Non, 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 mais je pense qu'il y aurait vraiment des
Il a 13
choses.
ans, il a 10 ans dans le livre. Hein.
Oui, mais je lui donnerais un. J'ai pas d'exemple là en tête, mais un livre où le personnage aurait à s'inventer à partir de lui-même, ce qui est extrêmement compliqué. Mais Salomon, dans le livre, pour moi, c'est une vraie victime. Il est le produit d'un couple qui, justement, n'a jamais réussi à vivre ensemble. Ni quand ils étaient ensemble, ni quand ils ont été séparés. Or, le propre des gens qui ont eu des enfants et qui se sont séparés, le pari, c'est de réussir à vivre ensemble, au-delà de leur séparation, pour l'intérêt de l'enfant. Beaucoup de gens n'y arrivent pas malheureusement, au mépris de l'enfant qui grandit et qui se construit avec cette colère. Et donc, ce que j'aurais envie de donner à Salomon et de lui dire à travers le livre que je lui mettrai en main, c'est invente-toi. Regarde devant, le chemin est devant. Voilà. Oublie que tu es le produit de tes parents et quand on est un enfant, on a évidemment toujours envie. On rêve toujours de cette réconciliation originelle. Et Salomon n'échappe pas à cela. D'où l'animosité aussi à l'égard de Déborah, mais qui est absolument classique dans les familles recomposées où ça se passe mal. C'est d'ailleurs pourquoi je crois que j'ai autant de témoignages où des gens me disent, mais voilà, j'ai deux enfants, j'en ai récupéré trois, on en a fait un en commun, c'est tellement difficile, on a tenu, on n'a pas tenu, on s'est séparés à cause des enfants, on n'y arrivait pas, c'était trop de douleur. Trop de reproches.
C'est le rôle du livre aussi, ça. C'est de créer d'ouvrir une discussion, même un échange, après entre vous et les lecteurs. C'est important, ça,
Oui.
d'avoir ça?
Ah oui, c'est très gratifiant, c'est très gratifiant. Et c'est vrai que les réseaux sociaux amplifient beaucoup cela parce que les gens s'emparent du livre, le mettent en scène, le prescrivent aussi. Et puis par exemple là sur un salon à Nancy la semaine dernière, j'ai une lectrice qui m'a dit mais en fait moi je dis toujours ça n'existe pas les familles recomposées, ce sont des familles décomposées. Voilà, donc oui, il y a, bon, bah, c'est la fameuse phrase de Stendhal, le roman est un miroir qu'on balade le long du chemin. Et je crois que beaucoup de gens à travers le portrait de cette famille recomposée se retrouvent, ou en tout cas retrouvent des mécanismes qui sont propres à toutes les familles recomposées.
J'ai fait un lapsus au début de l'entretien, j'ai dit que c'était votre couple dans le livre. Mais j'imagine que les lecteurs, quand ils vous parlent, ils ont l'impression qu'ils partagent avec vous quelque chose de votre vie personnelle. Qu'est-ce que vous leur répondez dans ces cas-là? Oui, c'est un peu de moi, c'est pas totalement moi.
Alors, non, je pense qu'il n'avait pas du tout ce sentiment, parce que c'est un texte écrit à la troisième personne, et que quand on a prospecté le livre dans les librairies, auprès des libraires, auprès des blogueurs, etc., personne ne s'est posé la question de la dimension autobiographique du texte. Elle est arrivée au cœur de l'été, le 8 août, quand la femme du ministre de l'écologie a donné une interview fracassante dans l'Express, dans laquelle elle a dit que je braconnais dans sa vie privée, dans celle de son enfant, et qu'elle a assigné son fils avec lequel je vis une semaine sur deux, et que j'élève comme mes enfants et que j'aime, et qu'elle a dit qu'elle reconnaissait son enfant. Donc elle a dit à la France entière, c'est moi. Et cet enfant, qui pourtant va bien et n'a rien à voir avec le personnage de Salomon, a dit, mon fils est Salomon. Et donc forcément, la question de la dimension personnelle, autobiographique du texte s'est posée et se pose chez les lecteurs. En tout cas pour certains d'entre eux. Je leur réponds ce que je leur réponds à tous mes livres. Évidemment que je m'inspire d'une part de la réalité, mais elle est à l'arrivée tellement transformée, modifiée, que ça n'a plus rien à voir. Évidemment que non, Salomon n'est pas l'enfant avec lequel je vis une semaine sur deux, le fils de mon compagnon. Ce dont je me suis inspirée, c'est d'une famille recomposée. Oui, je suis dans une famille recomposée. Donc voilà, est-ce que j'ai échappé aux attentats? Non. Est-ce que l'enfant avec lequel je vis une semaine sur deux porte un sac à dos sur le dos? Est-ce qu'il est marginalisé, ostracisé, violent? Est-ce qu'il me menace avec un couteau? Évidemment que non, c'est de l'ordre de la fiction. Mais je fais un travail de romancier. Donc tous les romanciers s'inspirent en partie de leur vie. Je crois que faire le procès de l'inspiration aux écrivains, c'est signer la mort du roman. Voilà, ça n'existe pas des écrivains qui ne puissent pas, dans ce qui les traverse, dans ce qu'ils vivent, ou dans... même quand vous écrivez sur un personnage du Moyen-Âge, vous mettez de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu, de... Voilà. Donc c'est une discussion... c'est une discussion passionnante, hein, c'est une discussion sur le fond de ce qu'est le roman.
C'est le roman tel que vous l'aimez. Ça, parce que moi, j'allais vous amener sur ce terrain de l'écriture. Ce qu'on écrit, c'est souvent... Alors ça, on peut avoir des lectures très, très différentes de ce qu'on écrit, mais j'ai l'impression que vous écrivez les choses que vous auriez envie de lire ou que vous aimiez lire avant d'être vous-même romancière.
Moi, j'aime la littérature... J'aime les écrivains qui écrivent avec leurs tripes. Voilà. J'aime ce qui vient du ventre, j'aime sentir dans un livre que l'auteur n'aurait pas pu ne pas écrire ce livre et que c'était une question vitale pour lui. Voilà, qu'il y a une espèce de nécessité absolue, une sincérité, quelque chose qui est implacable quoi dans la décision d'écrire le livre. Voilà. C'est tout ce que je peux.
Est-ce qu'il y a un roman comme ça pour vous qui déclenche la passion des livres et un roman de ce genre justement qui est une référence? Alors là, Bazin, c'est peut-être pas le bon exemple, mais est-ce qu'il y a un livre qui à un moment donné vous dit, vous fait sentir tiens, moi j'ai envie d'écrire comme ça?
Plein de livres, des plus classiques, mais je... C'est très prétentieux de dire voilà, j'ai lu les frères Karamazov et je suis restée scotchée et voilà, ou Gary ou Ernaud ou Emmanuel Carrère ou Duras ou voilà, des gens qui m'ont inspirée, qui m'ont, mais jamais j'aurais la prétention de dire je m'inscris dans rien d'ailleurs. Je ressens la nécessité, le besoin de d'écrire sur ce qui me traverse, ce qui m'habite, ce qui me...
Et avant l'écriture, il y a...
Ce qui m'obsède, l'écriture c'est une obsession aussi. Et mon obsession, je crois que c'est la violence. Et je me rends compte, et c'est pour ça que c'est pas du tout, quand j'ai lu ici ou là des gens qui disent règlement de compte, je trouve ça assez tragique. Parce que j'en suis à mon 14e livre et que je n'ai eu de cesse que de travailler sur la violence. Mon précédent, Je vous sauverai tous, est sur la violence terroriste, l'histoire d'une jeune fille qui bascule dans l'idéologie de Daesh et qui part en Syrie. J'ai écrit sur la mort d'Ilan Halimi, ce jeune garçon qui a été enlevé, séquestré, torturé pendant 24 jours parce qu'il était juif. Donc j'ai écrit beaucoup sur la violence antisémite. J'ai écrit aussi sur la violence de l'absence, dans Deux étrangers et du silence, la rupture avec le père. J'ai écrit sur la violence du déni et la violence qui était faite aux femmes et l'injonction de ne pas vieillir dans Chouquette, qui est l'histoire d'une femme qui est quittée et qui refuse de l'accepter. Cette violence-là, d'accepter d'être passée de l'autre côté de l'âge possible. J'ai écrit sur la violence verbale dans le précédent, dans Un homme dangereux, où une femme est détruite, ou en tout cas détruit sa vie, simplement par la violence verbale qu'elle reçoit d'un homme avec qui elle entretient une relation qui n'est pas une relation charnelle. Donc vraiment, vivre ensemble s'inscrit dans le travail que je fais depuis que je publie, c'est-à-dire depuis 17 ans.
Vous publiez depuis 17 ans, vous lisez depuis quel âge? Est-ce que vous étiez lectrice, petite fille, adolescente? Moi, j'ai rencontré des écrivains qui me disent, moi, je suis venu à la lecture seulement à l'adolescence. Après, on évolue dans ses goûts. Mais le goût de tourner des pages et d'avoir un livre sur sa table de chevet tout le temps, ça vient quand?
Je pense que j'avais 11-12 ans. J'ai le souvenir que ma grand-mère m'avait offert une collection de classiques, dans une collection très jolie, bleu ciel, de livres un peu anciens que j'adorais, que je trouvais magnifiques. Et le premier choc de lecture que j'ai eu, je crois que c'est Au bonheur des dames, où j'ai eu vraiment le sentiment que la littérature, c'était de la 3D, que les mots s'effaçaient et qu'on rentrait dans un monde, que les choses prenaient du relief et que les pages n'existaient plus. Mais que c'était comme si on me donnait les clés qui permettaient d'ouvrir la porte d'un autre monde. Et je crois que j'étais une enfant assez rebelle. J'étais une enfant qui avait envie de... Qui avait un besoin éperdu de liberté, de partir, de faire ma vie, d'être ailleurs. J'ai été aussi une adolescente très en conflit avec mes parents. Et pour moi, la liberté, c'était les livres. La vie que j'avais envie de mener, c'était la vie qui était racontée dans des livres. Et donc, c'était une chance pour moi d'avoir ça, quoi. C'était un cadeau. Voilà.
Vous vous rêviez héroïne de roman?
Oui, j'avais quelque chose de très... J'avais un désir de romanesque en moi. J'avais envie de partir, d'aller faire des recherches pour pouvoir écrire, moi aussi, des histoires, en inventer très tôt, quoi.
Et après, vous avez conservé cette passion-là, aujourd'hui, là, où on se parle, bon, vous avez ce roman qui est sorti, je pense que vous devez travailler sur autre chose. Est-ce que vous continuez à lire tout le temps?
Oui, je continue à lire tout le temps. Oui, je continue à lire tout le temps. Je suis dans un moment, pour les raisons que vous pouvez deviner, d'intranquillité et aussi de rentrée littéraire qui fait que j'enchaîne beaucoup de rencontres dans les librairies, dans les salons, etc., ce qui fait que j'ai moins ce temps de retrait, mais j'ai toujours un livre avec moi, ça c'est sûr. Voilà.
Vous savez déjà lequel vous lisez en ce moment, par exemple?
Là, je viens d'acheter le livre d'une amie qui s'appelle Les enfants cachés chez Odile Jacob de Nathalie. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai là sur moi. Mais je lis aussi évidemment des livres de la rentrée. Voilà, mais je disais là, j'ai très envie de classiques parce que j'ai très envie de comment dirais-je, de revenir à l'essentiel. Voilà. Et je trouve que le va-et-vient entre la littérature contemporaine et la littérature classique est super bien et même très enrichissante. Voilà.
Alors moi j'ai créé ce podcast avec cette envie aussi de revenir au livre, de lire plus dans un univers où en tant que journaliste on est confronté, et vous le voyez en tant que romancière, aux réseaux sociaux, à la rapidité des messages, des conversations en quelques mots. Est-ce que vous avez l'impression que prendre le temps de lire un livre en 2018, c'est presque être un... Peut-être pas un fou, mais un rebelle. C'est dire stop.
Pas tant que ça. On parle toujours de... On dit oui, les gens lisent moins maintenant avec les réseaux sociaux. C'est vrai que ça prend un temps fou. Mais quand je vais en librairie, quand je vais voilà, dans des foires et que je vois le public, le nombre de gens qui viennent, qui dépensent de l'argent, c'est cher un livre. 15, 18, 20, 22 euros. Je crois que la littérature a encore de très beaux jours devant elle. Parce qu'on a un domaine réservé, aussi, qui est le domaine du cinéma, qui est celui de l'imaginaire. Et quelle que soit l'avancée des technologies, personne ne pourra remplacer cela. Voilà, le domaine de la création et de l'imaginaire, c'est pas, ce sont pas les robots qui vont prendre le relais. Donc, non, moi je crois que les gens lisent beaucoup encore, on aime ça, achètent des livres, se déplacent pour rencontrer des écrivains.
Dans ce contexte-là, les réseaux sociaux, ça peut être une chance. C'est-à-dire qu'on peut.
Mais vous avez toute une communauté, parce que c'est de cet ordre, qui porte les livres, les défendent. Voilà, je parlais, j'ai cet exemple en tête d'une dentiste que j'ai rencontrée, qui est devenue blogueuse, et qui a dit, mais en fait, ça m'a sauvée, les réseaux sociaux m'ont sauvée, parce que j'ai monté un blog, j'ai rencontré des gens qui me répondaient à n'importe quelle heure du jour et la nuit pour échanger sur ma passion. Alors oui, certes, je ne gagne pas un copec, beaucoup moins qu'avant dans mon métier de dentiste, mais je suis heureuse. Alors elle s'organisait pour travailler bien sûr encore, hein, mais en tout cas, voilà, les réseaux sociaux, c'est aussi un formidable, en tout cas pour ça, je pense à Instagram notamment, de promotion. Et de prescriptions aussi. Des gens qui ont je ne sais pas combien de followers et qui finalement, la manière dont ils s'emparent d'un livre est aussi puissant qu'un critique littéraire, ce qui est fou d'ailleurs.
Vous y allez, vous, sur les réseaux sociaux? Vous avez des comptes Twitter et Instagram?
Oui, ouais. Ouais, j'ai des comptes Twitter et Instagram. Alors Instagram, je m'en sers beaucoup. Beaucoup, pas en temps de promo, parce que je mets évidemment les dates de mes signatures, je relaye aussi les avis des lecteurs qui me touchent, qui me font plaisir, c'est un lieu de partage. Mais c'est aussi un endroit artistique pour moi où je publie beaucoup de photos, de choses que j'aime. Voilà, c'est aussi un outil artistique.
Twitter, c'est un peu différent. C'est par moments le lieu d'une grande violence.
Je vous le confirme.
Verbale. En tout cas, il y a même beaucoup de personnalités, j'allais dire, de simples citoyens qui s'en éloignent. Moi, je pense que c'est vraiment surprenant, cette violence qu'on peut y lire.
Non, c'est pas surprenant, parce que vous donnez la parole à tout le monde. Donc les gens sont heureux de la prendre. C'est aussi un défouloir. Il y a aussi ce problème d'anonymat, d'avatar. On ne sait pas forcément qui se cache derrière un nom. D'ailleurs, c'est ce que montre très bien Delphine de Vigan dans son dernier livre. Elle a un personnage comme ça de bourgeois qui se crée un avatar et qui est atrocement antisémite, raciste, qui dit des horreurs. Et donc ça horrifie sa femme. Et j'ai trouvé que ce personnage était très bien vu parce que c'est ce que permet Twitter. Oui, ça c'est sûr, c'est extrêmement violent. Et d'ailleurs, moi, la violence de Twitter, je la trouve dans pas tant dans la réaction des gens, même si elle l'est, mais elle est facilement écartable, celle-là, en bloquant les gens, en refusant de les suivre, en ne leur permettant pas l'accès à son compte, que dans la violence de la répétition de l'information. En fait, pour moi, j'ai vraiment l'impression que Twitter devient une sorte de BFM du net, où les articles reparaissent sans arrêt, les retweets sont comme des rééditions de BFM, voilà. Et ce bruit-là, je le trouve extrêmement toxique. Mais c'est le bruit de l'actualité, en fait. C'est le bruit médiatique. Je le trouve toxique sur le plan politique. Je le trouve toxique aussi sur le plan intime.
C'est quelque chose qui pourrait nourrir un prochain roman ? Ou Delphine de Vigan vient de le faire très bien ?
Non, alors pas du tout. Parce que justement, là, j'aurais eu envie d'aller vers quelque chose qui soit très très loin justement de l'actualité, parce que ce qu'offre aussi la littérature, c'est la possibilité d'explorer ce qui est universel, l'amour, la haine, la peur, la jalousie, voilà, la nature, le rapport aussi à la nature,
Et de s'éloigner aussi justement de cette actualité qui est envahissante et un peu...
De toute façon, le temps du roman est le temps opposé au temps Twitter, au temps de l'actualité, c'est le temps long. Moi, c'est pour ça que j'aime autant écrire. C'est le temps du silence, c'est le temps du retrait et c'est le temps long.
Ok, merci beaucoup Émilie.
Merci à vous.
Puis à bientôt.
À bientôt. Au revoir.
C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Pour retrouver les références des livres cités par Émilie Fraîche, rendez-vous dans les notes de cet épisode. À bientôt et bonne lecture !